Radio Grenouille est en direct du cinéma L'Alhambra à l'occasion de cette soirée documentaire Paul Carpita. C'est en effet avec le rendez-vous des quais que le grand public découvre Paul Carpita. C'est en 1990, mais c'est en 1955 qu'il a été réalisé, projeté à Marseille, puis interdit. La grève des dockers, le chômage, le pacifisme contre la guerre d'Indochine, les syndicats, c'en est trop, la censure fait la loi, le film est jugé dangereux pour l'ordre public. Cela n'a pas empêché Paul Carpita de faire des films, même si ce ne sont pas tous des longs métrages. Et c'est sa filmographie que nous allons évoquer ce soir avec lui pendant cette petite heure. Paul Carpita, bonsoir.
Bonsoir.
Paul Carpita, je disais tout à l'heure que vous avez été instituteur de 1945 à 1968.
Oui.
Alors on retourne un petit peu dans le temps. En 68, vous quittez l'éducation nationale. C'est pour vous consacrer complètement au cinéma ou il y a d'autres raisons ?
Oui, non. J'ai créé une société de production de films en croyant naïvement que j'allais faire mes propres films. Mais c'est très difficile parce que les premières parties dans les cinémas ne sont plus passées. On passe plus de courts-métrages. La télévision n'avait pas le développement actuel pour les courts-métrages. Et j'ai donc fait des films de commandite, mais toujours intéressants, des films de recherche scientifique, des trucs très intéressants, par exemple pour la défense du Rhône contre les pollutions et de la mer aussi, la défense des forêts méditerranéennes contre l'incendie. Toujours des trucs très intéressants et j'ai fait notamment un film sur les sous-marins de poche qui vont inspecter les pipelines là, au fond des océans. On est allé un peu partout, en Norvège, en Sicile, etc. C'est assez exaltant, quoi.
Alors c'est effectivement en 1968 que vous quittez l'éducation nationale. C'est un hasard si c'est en 68 ou
oui,
qu'est-ce que vous faites
que...
vous en 68 ?
Oui, parce que j'étais...
En 1968 par exemple.
Oui. j'étais en plein dans un film, je tournais l'occupation des usines, tout ça. J'étais sur le port, parmi les cheminots, etc. Je tournais les événements de 68. Et j'avais demandé un congé de convenance personnelle et on a exigé, l'inspection académique a exigé que je reprenne à la rentrée prochaine. Donc je ne pouvais pas lâcher ce film-là. Alors mon premier réflexe, ça a été de quitter l'enseignement, de ne pas reprendre ma classe. Mais mes amis du syndicat m'avaient fait remarquer que là, je perdais tout. Je perdais... tous mes avantages, je n'avais plus rien et j'avais quand même une vingtaine d'années, 20 ou 25 ans d'ancienneté et on m'a dit non, il y a un moyen, tu peux ne pas reprendre mais sans démissionner, tu demandes ta mise à la retraite anticipée parce que comme tu as eu 3 enfants, tu as droit. Alors j'ai demandé ma retraite anticipée et j'ai quitté l'enseignement, voilà.
Mais vous étiez en grève vous aussi ?
Oui, bien sûr.
Paul Carpita, le cinéma pour vous, ça commence pas en 68, ça commence en 45, je crois.
Ah oui, oh, bien avant. Ça remonte à l'âge de 8 ans, vous voyez, lorsque j'avais déjà fabriqué une lanterne magique avec une boîte à chaussures, des miroirs agencés, astucieusement arrangés, et avec une lampe de poche. Et là, je dessinais des trucs et je racontais des histoires à mes petits camarades, quoi, dans l'obscurité. Ah, c'était extraordinaire. Et puis un jour, mon instituteur est venu en classe avec... Un projecteur ciné 9.5 à manivelle, un pâté baby, et il nous montrait un de ses films à lui, et moi j'étais passionné de ça, j'étais impressionné par ce cinéma là, c'est en 1930 hein, dans ces quartiers déshérités au nord de Marseille là, et avec tous des petits pauvres, des enfants d'immigrés italiens, etc. Et là il me charge à moi de tourner la manivelle. Alors ça a été extraordinaire. Alors je tournais la manivelle et on voyait un petit film qu'il avait réalisé lui-même avec son petit gamin qui tombait, qui portait un arrosoir, qui se renversait. Tous les enfants riaient et tout. Mais moi qui tournais la manivelle, je ne regardais pas du tout l'écran. Je regardais le mécanisme et je voyais ces petites images toutes pareilles, mortes, figées. Et au moment où la boucle de la pellicule tournait pour être avalée par la griffe du mécanisme, ça se saccadait. Et là, je voyais que ça s'animait. Et c'est ça qui m'avait impressionné, parce que je disais, on part de quelque chose de mort et ça devient vivant après. Qu'est-ce qui fait que ça bouge, que c'est vivant ? En arrivant chez moi, j'ai fait un malheur. J'ai demandé à ma mère, je veux qu'on m'achète le cinéma. J'avais 8 ans et j'avais vu un petit jouet pour enfants, un cinéma presque le même que celui du maître, là, mais un peu plus sommaire. C'était un jouet. Et mes parents, on était pauvres bien sûr, mais mes parents, en me voyant tellement fou de ça, ils m'ont acheté un petit appareil. Alors là, je me renfermais dans la chambre obscure, j'avais fait l'obscurité, et je tournais, je faisais avant, je faisais arrière, j'arrêtais sur l'image, tout ça. On nous avait donné, avec l'appareil, un petit film en boucle, là, qui représentait un enfant qui lançait un ballon à un morse qui le recevait sur le bout de son nez. C'était tout, il lançait, le morse le recevait, puis ça revenait indéfiniment, c'était une boucle. Et moi, je faisais avant, arrière, j'accélérais le mouvement, je figeais le ballon en plein vol, et puis je décidais que c'était cette fois le morse qui allait lancer le ballon, et pas l'enfant. Et confusément, dans ma tête, je sentais que j'étais un magicien, parce que je créais la vie. Grâce à moi, sur l'écran, la vie prenait une autre tournure. Je décidais des trucs pour l'écran, donc je créais des films.
Avec le recul, vous avez l'impression que c'est là que vous êtes devenu réalisateur ?
Eh oui, moi je crois que c'est de là qu'il y a eu ce petit rendez-vous d'amour avec l'image animée, voilà, avec l'image animée. Et ça m'a plus lâché, ça. Et comme mes parents, ma mère le disait, oh, ce petit, là, le cinéma dans le sens. Oui, bien sûr, mais cette lampe, elle suce beaucoup de courant, hein, mais je ne peux pas l'empêcher parce qu'il aurait les convulsions.
Et la première fois que vous prenez une caméra pour aller filmer, vous avez envie de faire une fiction ou vous aviez envie de filmer le monde autour de vous ?
Non. Au début, à la disparition de mes parents, mon frère, qui est devenu mon tuteur, m'avait acheté une caméra pour exaucer le vœu de mes parents et surtout de ma mère. Elle a dit, oh là, il faut pas le, il a le cinéma, là, il faut l'aider et tout. Et il m'a acheté une petite caméra 16 mm. Et là, avec cette caméra de 16 mm, mon premier, je revenais de la résistance, vous voyez, où j'étais avec les francs-tireurs et partisans français, et je me trouvais dans cet élan extraordinaire de la libération, avec beaucoup d'espoir. Tout le monde mettait beaucoup d'espoir. On avait créé pendant les maquis, la sécurité sociale, tout ça, on savait, vous allez voir ce que vous allez voir, on était tous. Et je tournais. Alors j'avais créé le groupe Cinépax. Et là, avec un groupe d'amis, on tournait des actualités. On a tourné la reconstruction de Marseille, on a tourné tout un tas de trucs. Ça. Mais en 1947, la situation a changé. Ce gros espoir de la libération, tout ça, a été trahi. Les gens étaient déçus parce qu'il y a eu la guerre froide qui s'est installée. Et notre pays s'enlisait dans une guerre coloniale en Indochine. Et puis, il y avait des luttes, il y avait des grèves. Et nous, notre caméra tournait ça en disant que c'était des contre-actualités. Parce qu'à l'époque, dans les cinémas, avant le long métrage, il y avait toujours une bande d'actualité, ce qui correspond à notre journal télévisé de 20h à la télévision aujourd'hui. Et toutes ces actualités, Mauviettone, Gaumont, les actualités françaises, etc., Pathé, racontaient des trucs extraordinaires, le contraire de la réalité, parce qu'on disait que c'était, en Indochine, c'était quelques bandits qui troublaient l'ordre, etc. Après, un peu plus tard, pour l'Algérie, on disait qu'il faut rétablir l'ordre parce que c'est des terroristes, tout ça. Mais c'était des guerres, des véritables guerres qui ne voulaient pas dire leur nom. Bon, alors, on a tourné donc, et cette fois en 35 mm, des contractualités. On avait acquis une petite caméra 35 mm sur plus américain et on tournait des contractualités. Et ça, on les projetait dans les cinémas au moment où il y avait un meeting, où il y avait le mouvement de la paix qui faisait une grande réunion, au moment où il y avait les syndicats. Et les gens voyaient sur l'écran ce qu'ils avaient vécu quelques jours avant, et c'était très, très, très impressionnant. Alors, en voyant ces images, par exemple, du port de Marseille figé par la grève des dockers qui refusaient d'embarquer le matériel de guerre, on avait fait les actualités de ça, les contre-actualités, pour montrer que le peuple de France, et notamment les dockers, refusaient cette guerre, et que cette guerre était inutile, qu'elle allait se terminer forcément, et qu'il y avait tous ces cercueils qu'on débarquait et ces morts inutiles. Voilà. Alors, en voyant ces images sur grand écran...
Ce sont des scènes que vous avez incluses au rendez-vous des quais.
Oui. Et en voyant sur sur grand écran ces belles images, les gens disaient autour de moi, mais c'est un film, mais tu es capable de faire un vrai film, comme n'importe qui, tu peux faire un grand film avec des images pareilles, tu peux tourner, inventer un scénario, tout ça, faire un grand film. Alors moi j'étais un peu inquiet parce que quand même ça demande autre chose qu'une petite caméra. Et puis, malgré, après beaucoup de réticences, je me suis lancé dans l'aventure avec nos camarades et on a dit, oh ben, on va faire un grand film à propos de ces événements-là, en utilisant ces images d'actualité, mais en tournant d'autres choses et en mélangeant fiction et réalité, on va créer ça.
Alors avant d'arriver au rendez-vous des quais, en 1947, vous faites un film qui s'appelle « Nous voulons vivre contre la bombe atomique ».
Oui.
Voilà,
en même temps que nous faisions
Parce
ces actualités-là...
Vous filmez toujours à Marseille.
Ah, c'est toujours à Marseille, oui, oui. Et là, le mouvement de la paix avait lancé une grande campagne pour l'appel de Stockholm. C'était un appel qui a été fait dans le monde entier par des intellectuels, par des gens de cœur, etc., contre la bombe atomique. On ne voulait pas qu'on fabrique les bombes atomiques, qu'elles se développent et tout. On pensait que c'était un danger terrible. Et moi, j'ai pas voulu là faire un documentaire brut. J'ai voulu un peu le romancer. Alors j'ai fait donc « Nous voulons vivre » et je raconte l'histoire d'un ballon, d'un rallye-ballon. C'est un ballon qu'on a lancé dans les airs au cours d'un grand rassemblement pour la paix. Et les enfants remplissaient des mots de paix, tout ça. Puis le ballon partait et le ballon qui atterrissait le plus loin avait une récompense. Voilà, ils ont demandé aux gens. Et je fais l'histoire de ce ballon qui tombe chez une paysanne, qui se pose des problèmes, etc. Et je racontais notre lutte contre la bombe atomique à travers une petite fiction. Voilà, ça c'était « Nous voulons vivre ».
Mon prochain film. Je voudrais le faire sur les vieux quartiers, tu vois. Filmer les gens, les rues, les vieilles pierres. Je suis né ici, tu sais. J'allais même à l'école par là. J'y retrouve tous mes souvenirs. Rien n'a changé.
Radio Grenouille en direct de l'Alhambra à l'occasion de la soirée documentaire consacrée à Paul Carpita qui débutera à partir de 19h30. Pour l'heure, nous sommes avec Paul Carpita. Paul Carpita, on vient d'entendre un extrait de la bande sonore du film Marseille sans soleil. Marseille sans soleil, c'est 1960 ?
Oui.
Et c'est la guerre d'Algérie ?
Oui, il y avait encore la guerre d'Algérie.
Pourquoi ce film s'appelle Marseille sans soleil ?
Bien, c'est un peu une boutade, parce que, vous savez, on avait interdit mon film il y avait cinq ans, et je voyais débarquer à Marseille des équipes très lourdes de cinéma, et tous ces gens se précipitaient pour avoir le soleil, pour avoir les bons mots, et puis ils tournaient leur projecteur vers le dérisoire, là. La drogue, les quartiers malfamés, etc. C'est tout ce qui retenait de Marseille. Et moi, je souffrais parce que on m'avait pris mon film et qui parlait justement de gens de Marseille qui avaient refusé une guerre coloniale, etc. Et en plus, je ne sais pas, je pensais qu'il y avait tous les matins des dizaines de milliers de gens qui se levaient très tôt pour aller sur le port, pour faire marcher les trains, pour faire marcher les tramways, dans les usines et tout, pour faire battre le cœur de la ville. Et ces gens étaient complètement oubliés par le cinéma et tout. Alors j'avais la colère et puis voilà. Alors par amour pour ma ville, j'ai appelé ça Marseille sans soleil, mais c'est une boutade parce que dans le film il y a du soleil, il y a du beau soleil même, mais il y a aussi de la pluie. Mais c'est pour dire que Marseille de tous les jours existe avec ou sans soleil, voilà. Et en même temps, c'était un peu ce qui m'avait inspiré ce film-là, c'était pour rendre un peu hommage à un de mes camarades qui faisait partie de l'équipe qui a fait le rendez-vous des quais. Et pendant on était presque à la fin du tournage, il a été appelé en Algérie, il était sur Citer et il n'est plus revenu, il était mort en Algérie. Alors je parle de lui dans mon film Marseille sans soleil, voilà.
Alors Marseille sans soleil, c'est l'histoire d'un jeune cinéaste qui veut filmer sa ville et puis qui est obligé de partir à la guerre en Algérie. Dans ce film est évoquée la recherche des images à montrer de Marseille.
Ça, oui, c'est, oui, c'est... je montre ce réalisateur-là. Alors on dit que c'était un peu moins, oui, ça, c'est peut-être vrai, vous savez, quand on fait un truc avec son cœur, avec ses tripes et tout, on y met de soi-même. Hein. Alors c'est peut-être un peu moins, mais moi je pensais à cet ami-là. Et alors c'est l'histoire d'un réalisateur, de trois gars qui veulent faire un film sur Marseille. Mais cette ville, elle leur échappe entre les doigts, elle triche, ils n'arrivent pas à saisir le vrai visage de la ville parce qu'elle se barbouille de soleil et elle joue à être Marseille, vous voyez ? Comme pour plaire à ceux qui attendent d'elle cette image. Et voilà, alors ils cherchent, ils n'arrivent pas à trouver, ils s'énervent. Le réalisateur a bien une idée en tête, mais les autres ne comprennent pas ce qu'il veut. Mais il filme quand même, il filme ce qu'il dit, mais ils ne comprennent pas. Et il est appelé, à la fin du tournage, il est appelé en Algérie, il est tué, il ne revient pas. Et voilà, les deux autres se trouvent avec toutes les images sur le bras et ils font le montage en suivant les indications que le réalisateur avait données. Et puis on assiste à la projection de ce film, enfin. Et là, on s'aperçoit que c'était vraiment, il aimait sa ville, les deux comprennent ce qu'il voulait faire et tout. Et la jeune fille, la script, eh bien, elle comprend qu'elle l'aimait, dans le fond, voilà. Alors c'est encore un amour qui a été bêtement assassiné par la guerre.
Vous-même, quand vous filmez Marseille, vous savez ce que vous allez filmer ou vous cherchez aussi ce qu'est Marseille ?
Oui, bien sûr, c'est que j'ai eu les mêmes difficultés. Et c'est très difficile quand même d'atteindre la réalité, l'authenticité des personnages et tout. Vous savez, dès que vous avez en face des gens avec une caméra, alors ils jouent à être Marseillais, vous voyez. Alors ils en font trop, ils ne sont pas réels. Et c'est très difficile.
Paul Carpita, le rendez-vous des quais, combien de temps vous avez mis à le monter, à le filmer, à le réaliser ?
Oui, j'ai mis beaucoup de temps. Nous avons mis beaucoup de temps parce que je n'étais pas cinéaste professionnel, j'étais instituteur. La plupart des gens qui étaient autour de moi avaient leur travail, leur métier. Les comédiens n'étaient pas des comédiens, ils jouaient leur propre rôle. Alors il faut attendre les moments de liberté des uns des autres. Moi, je pouvais tourner que le jeudi et le dimanche et pendant des vacances. Et voilà, alors donc ça a été très long. On a mis plus de 2 ans à faire le film.
Et pour filmer la réalité, il faut être là au bon moment.
Oui, mais évidemment,
quand
on tournait les trucs, on était dans la réalité. Là, je tenais à mélanger fiction et réalité. J'avais un scénario très grossier, très sommaire, l'histoire de deux frères que les événements rendront antagonistes. Vous voyez, alors c'est assez émouvant, ça. Voilà, je voulais, c'était ça. Et puis alors, évidemment, tourner ma caméra du côté des petites gens, du peuple et des travailleurs du port, et puis dans les quartiers au nord de Marseille, tout ça. Alors, on tourne tout en décor naturel, que ce soit intérieur ou extérieur. Et ça, la Nouvelle Vague l'a fait plusieurs années après. Il a fallu attendre la Nouvelle Vague pour connaître ça au cinéma. Mais nous l'avions déjà fait, on bousculait tout. Moi, mon souci profond, et qui est demeuré pour les Sables Mouvants, pour tout ça, je veux mettre en scène des personnages authentiques. Et j'essaie, avec ma caméra, de plonger dans l'âme même des gens et pour après les faire évoluer dans un contexte social souvent explosif qui va les révéler à eux-mêmes. Alors on a donc des personnages qui nous émeuvent parce qu'ils sont totalement authentiques et tout, même s'ils s'affrontent, on sait pourquoi, on comprend ça et on est très ému. Et c'est ce qui se passe dans les sables mouvants. Mais dans le rendez-vous des quais, c'était ça. Alors donc, la caméra était toujours attentive aux événements. Alors le scénario, et ça c'était un point très important, parce que les critiques de cinéma l'ont dit, lorsqu'on a redécouvert le rendez-vous des quais, qui a fait le tour du monde, je suis allé au Japon, en Amérique, en Asie, je suis même allé au pôle Nord, vous voyez. Eh bien, ils disaient tous que cette manière de faire était extrêmement intéressante. Et c'est dommage qu'on ait étouffé le film en 1955, parce que les cinéastes, peut-être, auraient pu s'en inspirer. Et voilà. Alors, on a appris, on a découvert le film qu'en 88-90. Et là, eh bien, il s'est passé toutes ces années perdues pour ça.
Vous aviez des références, vous, en matière de cinéma, quand vous avez commencé
Non, je ne peux pas dire que j'avais des références, parce que je n'étais pas du tout cinéphile. J'allais au cinéma voir les films de Fernandel, de trucs comme ça, mais pas. Bon. Je n'avais pas connu Tony, par exemple, dont on me parle beaucoup, en me disant que c'est le rendez-vous des quais, c'est le chaînon manquant entre Tony de Renoir et La Nouvelle Vague. J'ai vu Tony depuis, mais à l'époque, je n'avais pas vu Tony. Je reviens à ça, là, ce qui était intéressant. C'est que le scénario s'écrivait au fur et à mesure. Alors, ça fait que dès qu'il y avait un événement, je modifiais le scénario qui était écrit. Je dis non, là, il dira plus ça. Non, là, il ira pas ça. Il ira là-bas. Et je mettais mes comédiens au milieu de l'événement. Et ça, c'était drôlement intéressant. Alors, ce qui m'avait impressionné, moi, puisque vous me parlez de référence, c'était les films italiens. Là, je me souviens d'avoir été vraiment bouleversé, très profondément ému, avec Rome Ville Ouverte, Le Voleur de Bicyclette, surtout, et Dessous d'Espoir. C'est des films peut-être que vous ne connaissez pas, mais que je vous engage à revoir si on fait des rétrospectives, parce que c'est vraiment formidable. Alors, ces gens, ces Italiens, là, ils tournaient le peuple, ils tournaient vers les petites gens, sans s'embarrasser de techniques élaborées, tout ça, ils fonçaient, et ça jaillissait, là, c'était vraiment la vie qui était captée par la caméra, et ça m'enthousiasmait, oui.
Les Sables Mouvants, c'est une fiction ?
Ouais.
Vous aviez un scénario au départ, ou vous aviez des images en tête au départ ?
Oui, là, vous faites bien de me demander ça. C'est que lorsque nous faisions les contractualités, dont je parlais tout à l'heure, j'avais été amené à aller voir de près, pour faire une actualité, des travailleurs saisonniers, un peu clandestins, étrangers, qui venaient en Camargue pour piquer le riz. Et j'étais allé sur place et j'avais été témoin de trucs vraiment horribles et qui m'avaient. J'étais vraiment très bouleversé, très ému par la situation qui était faite à des êtres humains. Ils étaient traités comme des bêtes et ils dormaient à même le sol, sur de la paille, etc. C'était. Pas partout en Camargue. Il y avait certains endroits. Mais là, j'étais. J'ai dit, je vais écrire un scénario pour qu'on puisse voir à l'écran ces personnes-là, pour être un peu leur porte-parole, et voilà. Et j'avais écrit ce scénario qui s'appelait « Les humiliés ». Et je pensais naïvement le tourner tout de suite après le rendez-vous des quais. Voilà. Et 35 ans après, j'ai repris ce scénario, je l'ai modifié, je l'ai amélioré, tout ça. Il s'appelle maintenant Les Sables Mouvants. Ça a donné un film qui s'appelle Les Sables Mouvants et qui sort partout en France et notamment à Marseille au César.
Alors, la plupart de vos films sont assez liés à l'actualité. Les Sables Mouvants, le scénario a environ une trentaine d'années. Comment vous faites le rapport aujourd'hui entre ce scénario et la réalité ? Est-ce que vous aviez une nostalgie par rapport à ça, ou est-ce que vous trouvez que ce thème est encore très actuel ?
Non. Là, je remarque, en revoyant les Sables Mouvants, comme d'ailleurs tous les spectateurs, c'est qu'il y a une résonance actuelle extraordinaire. L'action se passe en 1958 et on retrouve tous les mêmes, hélas, tous les mêmes problèmes, les dessous de table et les affaires et l'argent qui régente tout une masse de gens jetés sur le bas-côté et tout. Et puis, cette fraternité interraciale dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Oui.
Marville, tu vois, les premiers froids ont chassé tes faux amis de passage. C'est la morte saison. Alors tu me reviens, sans grimace, sans grimage, vivante, Marseille de tous les temps, Marseille de tous les jours.
Radio Grenouille, toujours en direct du cinéma L'Alhambra, à l'occasion de la soirée documentaire consacrée à Paul Carpita, extrait de Marseille sans soleil, deuxième extrait de Marseille sans soleil. Nous sommes toujours avec Paul Carpita et puis avec Jean-Pierre Daniel, directeur de l'Alhambra et qui est à l'origine de cette programmation documentaire. Jean-Pierre Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
La première fois qu'on a fait une émission en direct du cinéma L'Alhambra, c'était une soirée documentaire aussi, c'était avec Jean-Louis Comolli. Alors le documentaire, quelle place il a dans ce cinéma ?
Ah oui, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être bref par rapport à cette question qui est une question importante. C'est une volonté très affirmée, peut-être tout simplement parce que je suis un cinéaste qui considère que le cinéma documentaire est peut-être... le genre ou du moins la pratique cinématographique où les plus grands cinéastes travaillent aujourd'hui. C'est une déclaration d'intention en disant ça, mais donc l'Alhambra est un lieu où je souhaite vivre cette passion du documentaire et la partager avec le public, et que bon, il y a d'autres endroits à Marseille où se partage cette passion, et on est bien content que cela se fasse, le festival en particulier au mois de juin. Et l'idée, c'est de reprendre peut-être de façon plus continue un rendez-vous sur ce travail, sur le cinéma et des cinéastes qui se battent avec le réel, peut-être une autre façon de dire le documentaire, de leur donner encore plus de place cette année que les autres années. Et c'est vrai que l'idée, c'était de faire une soirée avec Paul à l'occasion de la sortie des Sables Mouvants. Non pas parce qu'on voulait pas programmer les Sables Mouvants. D'abord, on a fait la première ici au mois de juin. Avec quel succès et quel enthousiasme.
Au mois de juin, il y a un an.
C'est il y a un an, oui. Mmh. Et donc, on était tout de suite prêts à voir le film dès qu'il a été fini. Et l'idée, c'était qu'on était très, très heureux que le film sorte au centre de la ville, au centre Marseille, au César. Et que ce soit un film qui sorte dans des conditions classiques de sortie, on n'a absolument aucune illusion sur notre travail de ce point de vue-là. C'est pas un regret, c'est simplement qu'on est on a une autre mission et qu'on doit l'accomplir, et que quand même c'était impossible de laisser la sortie du film de Paul sans lui faire un signe. C'est bien l'amitié que l'on a pour lui et l'admiration que l'on a pour son travail. Il fallait qu'on fasse quelque chose aussi. Et cette idée de dire soirée documentaire, c'est d'abord considérer que Paul, quelque part, est un grand cinéaste documentaire, et pour moi, c'est pas un genre mineur et une façon de diminuer son travail que de dire cela, au contraire. Et que, on peut aussi dire une soirée documentaire, c'est aussi les documents autour du travail d'un cinéaste. Et on a souhaité réunir quelques émissions de télévision, notamment faites par l'équipe qui vient de finir les Sables Mouvants, des jeunes réalisateurs, producteurs, ingénieurs du son qui ont travaillé sur le Sables Mouvants. Encore une réussite de Paul, c'est d'avoir transmis son enthousiasme à des jeunes cinéastes qui arrivaient pourtant de Paris, qui n'étaient pas comme nous des enthousiastes de Marseille, et qui ont eu envie d'aller plus loin avec Paul et de comprendre, et qui se sont mis à interviewer tout le monde, à aller chercher. Et là, ce soir, on va voir deux des émissions qu'ils ont réalisées. Et bon, je les ai vues et je crois que c'est vrai que c'est très beau de voir parler du travail de Paul aussi à travers des réalisations de cet ordre, même si on est dans des documents et pas forcément dans des films. Et puis, revoir le rendez-vous des quais, c'était aussi la possibilité pour des gens qui ne l'ont pas revu depuis longtemps, puisque maintenant il y a longtemps qu'on l'a ressorti, ou qui avaient envie de le revoir après avoir revu Les Sables Mouvants. C'était le mettre à l'affiche. Et puis, dès que l'on pourra, on gardera certainement la copie de, des Sables Mouvants à l'Alhambra une fois qu'elle aura fait son, son temps en centre-ville pour permettre à des gens qui déjà nous téléphonent en nous disant « Mais vous allez le passer, on viendra le voir chez vous, il a sa place ici, comment c'est pas vous qui le faites ?» Enfin bref, donc les Sables Mouvants seront à l'Alhambra et ce soir et bientôt.
Quand j'évoquais Jean-Louis Comolli, c'était à propos de Marseille contre Marseille. Là, on est avec Paul Carpita. Ce sont des cinéastes qui filment Marseille. Alors, comment il filme Marseille, Paul Carpita ? Peut-être on va demander à Jean-Pierre Daniel, puisqu'on vient d'entendre un extrait de Marseille sans soleil, où le personnage dit « Marseille, tu me reviens sans grimage ».
Je sais pas, oui, c'est vrai qu'il y a, il y a toute cette réflexion sur, sur le Marseille de la bouillabaisse, le Marseille qu'on dit être celui de Pagnol, alors que le cinéma de Pagnol n'est pas forcément celui dont on a fait la caricature. Et il y a dans, et là aussi, il y a dans les scènes des films de Paul, des moments où on dit, on est dans des films de Pagnol, et pas de façon négative, mais de façon, c'est aussi raconté. C'est aussi laisser la place à ceux qui parlent, qui donnent beaucoup d'importance au dialogue, au sens de la tchatch, de l'échange. Je crois que Robert Guidiguian nous montre bien aussi que c'est de cet ordre-là. Et Jean-Louis est allé travailler sur la parole des gens, c'est-à-dire sur la façon dont les gens racontent leur histoire, que ce soit dans le cadre d'une fiction ou que ce soit en disant le rôle qu'ils ont par rapport à une campagne électorale. Je crois que c'est ce cinéma qui vient dans la parole des gens.
Paul Carpita, c'est la parole qui vous intéresse ou c'est les actes des gens qui vous intéressent ?
Oh ben c'est tout mélangé, bien sûr. Moi, j'adore ma ville. J'y suis né, je suis de parents marseillais. Et je suis très malheureux lorsque je suis loin de cette ville-là. Et pour créer et pour réaliser quoi que ce soit, j'ai besoin de mes racines-là, d'être dans mes racines.
Merci Paul Carpita. La soirée documentaire consacrée à Paul Carpita à l'Alhambra débute à 19h30. Dépêchez-vous.